George Eliot, Le Moulin sur la Flosse, traduit par A.F. d'Albert Durade. Livre premier, Petit garçon et petite fille. Chapitre premier, Vue du moulin de Dorlcote. Dans une vaste plaine coule la Flosse, dont le cours s'élargit et se précipite vers la mer entre des rives verdoyantes, tandis que la marée semble s'élancer à sa rencontre pour lui barrer le passage par une amoureuse étreinte. Portés par cette puissante marée, de noirs vaisseaux chargés d'odorantes planches de sapin, de sacs remplis de graines oléagineuses ou de tas de charbon aux brillants reflets, remontent jusqu'à la ville de Saint-Ogg's. Cette petite ville étale ses vieux toits rouges aigus, dont les pignons font face au quai, entre une colline basse et boisée et les bords de la rivière, jetant sur l'eau une douce teinte rosée sous les faibles rayons d'un soleil de février. Bien loin, de chaque côté, s'étendent de riches pâturages, entrecoupés par des champs dont les sombres sillons récemment ouverts attendent les semences ou laissent déjà surgir les tendres tiges de blé semées en automne. On voit encore par-dessus les haies quelques restes des meules élevées en forme de ruche l'année précédente. De grands arbres surgissent de ces haies, et dans le lointain, les mâts des vaisseaux aux voiles déployées semblent se mouvoir à travers les massifs des frênes élancés. Tout près de la ville, la Ripple vient rendre son cours tributaire de celui de la Flosse. Quelle est jolie cette petite rivière, avec ses vagues brisées, sombres et miroitantes. Elle est pour moi comme une compagne vivante, pendant que j'erre sur ses rives et que j'écoute sa douce voix, calme comme les accents affectueux d'un ami. Je vois aussi le pont de pierre et ses grands saules baignant dans l'eau l'extrémité de leurs branches. Mais voici le moulin de Dorlcote. Arrêtons-nous un moment ici pour le regarder du pont, quoique les nuages menacent et qu'il soit déjà tard. Même en cette saison morte et nue de la fin de février, il est agréable à voir. Peut-être l'humidité du soir ajoute-t-elle quelque charme à la vue de cette habitation bien tenue et confortable, aussi vieille que les ormes et les châtaigniers qui l'abritent contre le vent du nord. La rivière coule à plein bord actuellement. Elle envahit cette oseraie et submerge à demi les longues herbes de ses rives. Tandis que je contemple le ruisseau, le gazon touffu et le vert tendre de la mousse délicate qui adoucit la sécheresse actuelle des grands troncs s'élançant des haies dépouillées, je m'éprends de cette humide fraîcheur. Je porte envie aux canards blancs qui plongent profondément leur tête dans l'eau sans se préoccuper de l'aspect bizarre qu'ils présentent. Le mugissement de l'eau et le fracas des roues qui m'assourdissent me portent à la rêverie et font ressortir le calme de cette scène. On dirait un grand rideau de bruit qui me sépare du reste du monde. Voici maintenant un énorme chariot rempli de sacs de blé qui revient au moulin avec un roulement semblable à celui du tonnerre. L'honnête charretier pense à son dîner qui se dessèche tristement dans le four à cette heure tardive. Mais il n'y touchera pas avant d'avoir pourvu à celui de ses chevaux. Ces vigoureuses et obéissantes bêtes aux doux yeux semblent lui jeter entre leurs œillères un regard de reproche de ce qu'il fait claquer son fouet d'une manière aussi effrayante comme s'il était besoin de cet avertissement. Voyez comme ils raidissent leurs épaules en montant vers le pont, avec d'autant plus d'énergie qu'ils se sentent tout près de la maison. Regardez ces grands pieds velus qui semblent se cramponner au terrain, la vigueur patiente de leurs coups tendus sous le lourd collier, les muscles puissants de leurs hanches. J'aimerais à les entendre hennir au-dessus de leur avoine si bien méritée, à les voir, le cou humide et délivré du harnais, plonger leurs naseaux fumants dans le réservoir. Les voilà maintenant sur le pont. Ils redescendent d'un pas rapide et le chariot couvert disparaît à un tournant derrière les arbres. Je reporte de nouveau mes regards sur le moulin. J'examine la roue qui, sans se reposer, lance incessamment des gerbes de diamants liquides. Une petite fille l'examine aussi. Elle n'a pas quitté sa place au bord de l'eau depuis que je me suis arrêté sur le pont. Et ce singulier petit griffon blanc aux oreilles brunes a l'air de sauter et d'aboyer dans une colère inutile contre la roue. Peut-être en est-il jaloux, car sa petite maîtresse, sous son chapeau de castor, paraît très absorbée dans sa contemplation. Il serait temps, je pense, que cette petite fille rentrât à la maison, où il y a un feu bien flambant pour l'attirer. J'en vois, grâce à l'obscurité croissante du ciel, briller la lueur rouge. Il est temps aussi que je cesse de m'appuyer sur la froide pierre de ce pont. Mais vraiment, je suis tout engourdi. Je m'éveille, pressant de mes coudes les bras de mon fauteuil. Je m'étais endormi, et je croyais être sur le pont devant le moulin de Dorlcote, le voyant tel que je l'avais vu dans un après-midi de février. Il y a bien longtemps de cela, et avant de m'assoupir entièrement, j'allais vous faire assister à la conversation de Monsieur et Madame Taleva, tous deux assis près d'un feu brillant dans le parloir de gauche, pendant cette même après-midi à laquelle je viens de rêver.